invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est une personne que vous connaissez bien, enfin au moins pour nos auditeurs. Il s'agit d'Astrid Ruf. Elle anime avec sa sœur Annette Fern l'émission hebdomadaire Le Yiddish aujourd'hui sur nos ondes. Une émission sur le Yiddish, ce n'est pas un hasard, car vous êtes la chanteuse, elle est la chanteuse, chef de chœur cabarettiste, autrice qui évolue depuis longtemps déjà autour de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture Yiddish. Mmh. Astrid Ruf, bonjour.
Bonjour Valérie.
J'allais dire ravie de vous recevoir. En fait, en même temps, vous êtes un petit peu à la maison. On n'a pas besoin de vous accueillir particulièrement.
Dommage.
Dommage.
Que vous ne dérouliez pas le tapis.
Mais si, c'est toujours un plaisir. On se voit de temps en temps. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, je le disais, vous êtes un petit peu la référence régionale aujourd'hui de la transmission de la culture yiddish. C'est un titre qui vous va bien, ça?
Oui, je suis devenue ça, effectivement. Ce n'était pas prévu, mais c'est ce qui s'est passé. Puisque j'ai une formation artistique depuis le plus jeune âge. Voilà, je passe les détails de début de ma formation, mais avec le chant, j'ai commencé relativement tard. J'ai commencé juste un petit peu avant mes 30 ans. Mais comme j'avais déjà fait de la musique, de la guitare classique, du chant choral, ben ça s'est bien passé tout de suite avec le chant classique. Et donc je suis rentrée au conservatoire, opéra, lieder, oratorio, tout ça. Mais ça ne me convenait pas, rien de tout cela ne me convenait. Donc je suis allée après plus vers l'opérette, puis vers la chanson, le répertoire du cabaret brechtien, puisque vous disiez que j'étais cabarettiste, c'est un petit peu vrai, le répertoire de la chanson française, les Prévert, après la chanson tout court, et puis très progressivement, ce n'est venu que progressivement, la chanson yiddish. Et ça c'était sur mes 40 ans, je dirais, globalement.
Une révélation dans la découverte de ce monde artistique, j'allais dire la langue, mais c'est au-delà de ça.
Oui, c'est le... Puisque donc, je ne suis pas de culture, je suis juive bien sûr, mais je ne suis pas de culture yiddish, on ne parlait pas yiddish chez moi, ma mère parlait allemand avec ses parents, français avec nous, avec quelques mots de yiddish dans son allemand très pur. Donc non, je ne connaissais pas réellement le yiddish, mais j'avais néanmoins, vu que j'avais fait l'hébreu et que je connaissais bien l'allemand, je connais bien l'allemand, une facilité pour l'apprendre. Mais c'est venu très progressivement, effectivement, à travers la musique, à travers la chanson. Et c'est vrai que j'ai alors découvert ce gigantesque répertoire de la chanson yiddish qui me comble et qui m'a poursuivi toutes ces années.
Astrid Ruf, on vous a connue chanteuse dans le groupe Les Yiddish Papas and Mamas. Vous avez embrasé comme ça beaucoup de carrières et de scènes avec la musique yiddish, mais pas uniquement. Cette vocation artistique, vous le disiez, vous avez fait le conservatoire, vous avez commencé assez jeune. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous, que ce sera effectivement votre carrière?
Oui, je pense que c'est notre chère maman, à Doris et à moi, Doris dont le pseudonyme est Annette Fern, qui nous a destinés aux plus grandes réalisations de soi. Donc la danse classique depuis jeune. Alors Doris, elle est allée plus vers les trucs, elle a été médecin psychiatre, elle écrit. Moi, c'était plutôt effectivement les métiers de la scène, la danse classique depuis très jeune. Et puis après, comme je l'ai dit, la guitare classique, le chant un petit peu plus tard. Oui, je crois que j'étais prévue pour passer une partie de ma vie sur la scène et j'y suis bien.
Vous n'êtes pas vue dans une autre carrière à un moment donné?
J'ai traversé beaucoup, beaucoup de doutes, puisque ça ne se passait pas toujours comme je voulais. Pour qui est-ce qui pourrait dire que tout se passe comme
c'est
on
vrai,
veut,
c'est vrai.
Dans quelque niveau que ce soit. Il y a eu des grandes, grandes périodes de doutes où je me disais, maintenant, il faut que j'arrête de rêver. Soyons instit ou soyons prof de lettres, parce que j'avais fait une licence de lettres modernes également, mais jamais de CAPES ou quelque chose comme ça. Je crois que j'aurais eu vraiment du mal déjà à passer un CAPES et puis ensuite à me retrouver devant une classe. Donc, c'était des fantasmes comme ça, que je pourrais éventuellement faire autre chose. Et chaque fois, je revenais vers ça et voilà, c'est pas vraiment encore l'heure des bilans, mais bien que je sois plus toute jeune, je pense que j'ai eu raison de continuer dans ce domaine.
Alors là, vous êtes chef de chœur de cette chorale, l'Omir Zingan. Vous étiez chanteuse, je le disais, des Yiddish Papas and Mamas. vous, d'être dans un groupe, dans une chorale, d'être, d'avancer comme ça avec une sorte d'énergie collective, c'est ce qui vous convient le mieux ?
Oui, j'ai beaucoup chanté. On a chanté avec les Yiddish Mamas et Papas. Je me permets de vous corriger parce que quand même, place aux femmes. Les Mamas d'ailleurs, d'abord les Papas après.
Ah, je l'ai dit dans l'autre sens, oui. autant pour moi.
On a beaucoup chanté, beaucoup tourné. Et là, ça s'est terminé avec l'horrible accident de Pourtalès. Mais là, j'étais une chanteuse parmi d'autres. Enfin, on était deux chanteuses, un chanteur et trois instrumentistes. Ensuite, j'ai enregistré deux disques dont je suis, moi, la seule chanteuse, accompagnée par une fois deux musiciens, une fois plus. Donc, j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup participé à des concerts dont j'étais la chanteuse. Et puis, les années passant, l'âge venant, l'âge de raison venant, je me suis dit qu'il fallait absolument que je transmette tout ce que j'avais accumulé. Et c'est comme ça que, petitement, pour commencer, donc ça fait déjà longtemps, ça fait plus que 10 ans, c'était en 2012, petitement, j'ai commencé à dire que je voulais bien animer un petit groupe. Je ne pensais pas du tout que ça donnerait ce que ça a donné 10 ans plus tard, parce que tout ça, c'est relativement lent quand même. Donc j'ai commencé, c'était au Centre culturel alsacien, qui nous a toujours accueillis très gentiment, avec 3-4 personnes, dont ma sœur, qui était justement à la retraite et qui avait un petit peu plus de temps pour d'autres activités. Voilà, 2-3 personnes, et j'ai commencé un petit peu à leur montrer le répertoire. Et ça a vraiment très bien évolué, puisque ça a donné cette chorale qui s'appelle Lommersingen, qui a maintenant Pignon sur rue, où on est pas mal invités. Cette année, on a pas mal de concerts, et dont celui à Wurth, dont on va parler, et avec laquelle je monte chaque année, sauf année Covid, ça c'est vraiment la grande parenthèse, mais sinon, chaque année, un spectacle thématique sur une problématique juive, et plus spécifiquement yiddish, et avec un texte qu'écrit donc Annette, avec des chansons, avec une thématique. Avec ce groupe, je monte chaque année ce spectacle-là, et le groupe, et à ma grande satisfaction, j'ai vu le groupe se développer. On est parti de 3-4, et on est maintenant à 15, si c'est un petit peu plus. Il y a des gens qui viennent irrégulièrement.
15 chanteurs, alors on vous retrouve par exemple sur la scène de la Chouque chaque année, hein, souvent à la fête de la musique également. Aujourd'hui, le yiddish fait partie du patrimoine alsacien à part entière.
Oui, alors des gens comme le CCA dont je parlais justement et Roger Siffert vous diront que oui, justement, vous donnez deux excellents, enfin nous abordons deux excellents pardon, exemples. Eux, au CCA, Centre culturel alsacien, ils nous ont tout de suite accueillis les bras ouverts en disant « Ah ben bien sûr, vous avez votre place, le Yiddish fait partie du patrimoine alsacien. » De même pour Roger, parce que c'est antique, archaïque, je ne sais plus depuis quelle année, on fait la fête de la musique le 21 juin, Yiddish, depuis bien avant la création de la chorale. C'était encore du temps, je crois, des Yiddish mamas et papas. On faisait des fois, juste Isabelle et moi, puis après avec Loïka, qui est aussi une très belle chanteuse yiddish, mais qui ne chante pas que en yiddish. Ensuite, on a invité d'autres personnes moins avancées dans la carrière, mais qui voulaient progresser. Donc, depuis des années, Roger Siffert fait le 21 juin fête de la musique yiddish. Donc, oui, on peut répondre que oui. Après, si on rentre dans les détails, le yiddish, celui le yiddish qu'on nomme également yiddish oriental, n'a jamais été tellement parlé en Alsace. Ici, on a parlé le yiddish occidental qui lui ressemble mais qui n'est pas la même langue.
Il y a des vraies consonances alsaciennes, même si c'est pas sa racine, mais on y retrouve. Alors est-ce que c'est avec les années le mélange de la pratique
Le yiddish occidental, ouais, ressemble plus à l'alsacien, et le yiddish oriental, je sais pas à quoi il ressemble, c'est une langue de fusion comme on dit, hein. C'est une langue dont la base est germanique, à quoi se rajoutent des mots d'hébreu qu'on appelle hébraïsme et des mots de slave qu'on appelle d'ukrainien, de russe, de roumain, qu'on appelle slavisme. Et les prononciations sont aussi différentes suivant les endroits, mais il y a une espèce de prononciation qui s'est imposée, un petit peu, qui est devenue d'usage. Voilà. Donc, mais ici, on n'a jamais tellement parlé le yiddish oriental, mais en même temps, le yiddish occidental, Plus personne ne le parle, sauf Alain Kahn, qui le défend très très bien, Freddy Raphaël. Il y a quelques personnes, on a invité une fois Alain Kahn pour comparer les expressions qu'il cite dans ses 350 expressions avec comment ça se dit en yiddish oriental. Et puis il n'y a pas beaucoup de répertoire, pas beaucoup de répertoire de chansons, pas beaucoup de répertoire de théâtre. Il n'y a pas beaucoup, bien sûr, puisque c'était vraiment concentré ici à l'Alsace rurale. Alors que le yiddish oriental avait un grand domaine d'expansion.
Et alors, le monde d'Itzik Manger, je ne sais pas si je le prononce
si,
bien.
Très bien.
Voilà, c'est du yiddish oriental.
Bien sûr, puisque lui, il était né à Tchernovitz, en aujourd'hui Ukraine, autrefois Roumanie, enfin c'est... Le nom de la région, c'est Moldavie. C'est plus facile que de dire Ukraine ou Roumanie, etc., parce que ça désigne une région et non pas un pays, puisqu'on sait que les frontières ont tellement bougé là-bas. Et dans, là où il est né, et c'est vraiment la spécificité de ce Itzik Manger, la spécificité de son origine géographique et la spécificité du personnage. Là où il est né, on parlait l'allemand, le roumain. Il y avait beaucoup de gitans, dont on parlait le romanesque, c'est la langue des gitans, des tzigoïnes, des tziganes, gitans, voilà, il y a plusieurs termes pour les définir. Et lui, il est allé à l'école juive, donc il a appris l'hébreu, et dans sa famille, on parlait le yiddish. Donc c'était un endroit très riche, polyglotte, et il l'était, et il avait un intérêt pour chacune de ces langues et pour la culture qui est derrière. Chacune de ces langues.
Alors, Itzik Manger, c'est l'objet de votre spectacle. Ce sera au musée Wurt d'Erstein le 7 octobre prochain. Donc, je le disais, les mondes yiddish d'Itzik, c'est un hommage au troubadour de la littérature yiddish. Alors, yiddish Itzik Manger, aujourd'hui, quelle résonance il a ? Pourquoi aujourd'hui vous le mettez en scène ? C'est lié à son parcours, artistique ?
Oui, tout à fait. Déjà, ses dates, 1901-1969. Alors, il a traversé toutes les turpitudes du siècle. Il a réchappé, mais ce n'est pas le cas de sa famille, ce n'est pas le cas de tous ses amis. Et après une enfance et une jeunesse heureuse, à partir de 1900, avant 40, parce qu'en plus sa spécificité, il était roumain, il vivait en Pologne, donc il a été viré de la Pologne aussi. Mais bon, avant même 40, les choses se sont gâtées, sérieusement, et donc il a mené une vie nomade, allant en France, en Angleterre, aux États-Unis, terminant ses jours en Israël. Et donc il a un parcours un peu... emblématique, non, il y a d'autres parcours possibles parmi les gens qui ont échappé à la mort, mais il a ce parcours-là et aussi donc la richesse de son inspiration due à la richesse de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse.
Ce sont des écrits, ce sont des poèmes et pas uniquement de la littérature. De quelle façon vous les avez transcrits pour créer un spectacle musical, mais pas uniquement ?
Oui, alors il raconte donc un des chanteurs de la chorale, qui s'est révélé être un comédien formidable, incarne Itzik Manger. Et plusieurs autres parmi les chanteurs viennent tour à tour lui demander... Et alors, où est-ce que tu es né ? Et alors, qu'est-ce que tu faisais en 1920 ? Et alors, qu'est-ce que tu faisais en 1940 ? Et, tata. Et il raconte sa vie par bribes. Et chaque fois, c'est illustré par une chanson. Parce qu'il est un poète, il a écrit beaucoup de recueils de poésie, aussi des pièces de théâtre. Et sa poésie, ce sont des vers courts, avec un rythme interne, comme ça, très facile. On ne s'étonne pas que... beaucoup de compositeurs à différents moments, parce que ça continue encore aujourd'hui, aient eu envie de le mettre en musique de son vivant. Puis maintenant encore, si on a le temps, on passera une chanson que Rava Alberstein a mis en musique. Donc ces poèmes, ça appelle à ce que ce soit mis en musique. Donc le récit de sa vie est illustré par des chansons sur des textes à lui, sur des poèmes que Itzik Manger a écrit.
Et il y a des traductions ou pas du tout ?
Alors si, on traduit, tout est traduit, oui, c'est une bonne précaution, n'ayez pas peur, vous comprendrez tout. Tout est traduit, les chansons, nous chantons en yiddish, bien sûr, mais déjà les interviews, si on peut appeler ça comme ça, du personnage qui jouait Zikmanger sont bien sûr en français, et toutes les chansons sont d'une manière ou d'une autre traduites, soit carrément traduites complètement, soit le contexte fait qu'on comprend vraiment le sens de chaque chanson.
Les chansons accompagnées à l'accordéon, ça aussi, c'est important de le dire. Pourtant, l'idée qu'on peut avoir, que ce n'est pas l'instrument originel de la musique yiddish. On imagine peut-être des instruments plus de l'Europe centrale, ou peut-être le violon.
Violon, clarinette, mais oui. On ne peut pas accompagner un spectacle avec violon, clarinette, puisque c'est un instrument mélodique, ça ne suffit pas, il faut un instrument harmonique. Donc non, l'accordéon...
Là, on voit la spécialiste.
Non, quand même, on oppose mélodique à harmonique, c'est-à-dire mélodique, il ne peut faire qu'une note à la fois, harmonique, il peut faire un accord, ce qui soutient autrement le chœur. Non, on pourrait, si c'est un peu une question de budget, c'est une question de choix, on pourrait avoir un petit orchestre. C'est vrai que ce serait encore plus riche si on avait un accordéon et un violon, par exemple. Ce serait encore mieux. Mais ce n'est pas le cas. Et s'il faut choisir un instrument, c'est l'accordéon. De préférence au piano, parce que le piano, par contre, lui, il n'est pas traditionnel. Il va mieux pour la comédie musicale américaine, par exemple, la période du développement de la culture yiddish, quand les Juifs sont partis en masse aux États-Unis et qu'ils ont développé la comédie musicale, le mieux, c'est un orchestre. Mais si on fait une réduction, c'est mieux au piano. D'ailleurs, un des spectacles que j'ai monté, qui est traversé un petit peu cette période plus récente, était accompagné au piano. Mais si on fait des trucs plus traditionnels, c'est l'accordéon qui s'impose.
Le musée Wurth à Erstein donc, vous ouvre ses portes pour cette soirée du 7 octobre. Ce n'est pas la couleur musicale, ils ont beaucoup de spectacles humoristiques, également des concerts classiques ou des chanteurs. On sait qu'on va retrouver Maxime Le Forestier, par exemple, qui chante Brassens, etc. Pourquoi ils vous ont invité? C'était l'intérêt pour ce style musical? Faudrait leur poser la question.
Il faudrait demander à Marie-France Bertrand. Oui, merci Marie-France de nous accueillir. Ils font chaque année, à cette période de l'année, donc en début de saison, quelque chose de plus local. Alors il y a à la fois nous, qui sommes très locales, et également l'association littérale, association d'écrivains, qui vient faire un genre de salon du livre tout le samedi et tout le dimanche. Venez, ce sera très intéressant. Et du coup, c'est une étape régionale dans une programmation nationale. Effectivement, Maxime Le Forestier, ils ont aussi un très beau festival de piano un petit peu plus tard dans l'année, en janvier, je crois, avec vraiment le summum des bons pianistes, peut-être français, mais vraiment les plus excellents. Donc, voilà, c'est une offre, une fleur faite à la programmation régionale dont nous bénéficions cette année.
Vous avez votre public, vous qui vous suit fidèlement selon les scènes où vous produisez?
Oui, on a, de manière générale, mais on, j'espère que tout se passera bien. On ne joue pas sur des grandes scènes comme ça. On joue souvent, il faut bien le reconnaître, ce sont les églises protestantes qui nous accueillent le plus et le mieux. Ça se passe souvent très très bien, même d'ailleurs là où nous répétons, parce que je parlais du Centre culturel alsacien, c'est là que nous avons commencé. Puis au fur et à mesure que la chorale grandissait, ça devenait trop petit, donc j'ai cherché un autre endroit, et maintenant nous sommes hébergés à l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, en bas de la rue du 22 novembre, lieu formidable dont l'église, la nef, a été désacralisée. Il n'y a plus d'office ou quoi que ce soit, mais des événements, des répétitions ou des concerts, que des choses profanes. Il y a une salle en bas, il y a une salle en haut, et c'est vraiment un endroit formidable. Et là aussi, c'est les protestants qui nous accueillent.
Donc, je rappelle, c'est le 7 octobre à Yiddish, il reste encore... à Yiddish, à Erstein. Il reste encore quelques places. Si on veut se procurer une place, ça se passe comment?
Alors, il faut réserver. Ça les rassure de savoir qu'on va remplir. Au 03 88 64 74 84, c'est assez facile à retenir, hein. Il y a 4 et après il y a 6, 7, 8. 6, 7, 8 et à chaque fois un 4 derrière. 03 88 64 74 84. Et le prix des places, c'est 25 euros.
25 euros, bah écoutez, on a tous les éléments et puis bah voilà, on va passer une bonne soirée, c'est le 7 octobre. On va se quitter avec un morceau qu'on va retrouver dans votre représentation, c'est lequel ?
Tout à fait, c'est donc là c'est la version de Rava Halberstein dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une des personnes qui a été séduite par la poésie de Itzik Manger, c'est Hvel Oyston Dishir. C'est une chanson parce que de par sa formation et de par son histoire, Itzik Manger n'était pas croyant. Et là, à la fin de sa vie, comme je le disais, il a terminé ses jours en Israël. Et là, il a été très reconnu. Ses œuvres de jeunesse ont été montées. Et c'est à partir de là qu'il a été très connu à travers le monde. Et c'est encore le cas maintenant, même si les Français ne le connaissent pas beaucoup. Mais grâce à notre spectacle, ils le connaîtront un peu mieux. Donc c'est une chanson où il se révèle un petit peu en lui une espèce de retour à une certaine foi, une croyance en un certain Dieu. Voilà, c'est un petit peu introspectif et c'est une très belle chanson. Donc mise en musique par Hava Halberstein.
Astrid Ruf, merci.
Merci beaucoup.
ולא יסתן דשיך ונדם טרויה ונקומן צדיר צוריק ותזוי ויכבין אפר שפילתה ונשתן זכפר דיין בלי מיין גוט, מיין הר, מיין בשפר לייטר מחויס אין דיין שיין Ot lieg ich vor dir, oi verwolken, verwieg mich und schläfer mich ein. Hallo ist denn der Schich und dem Treuer, und kommen zu dir und zu mir. Ot azoi, wie ich bin, hat er spielt er. Mein Gott, mein Herr, mein Beschaffer, leider mich heus in dein Schein. Ort lieg ich vor dir, oi verwolken, verwieg mich und schläfer mich ein. Und rät zu mir gute Wörter und sag mir, als ich bin dein Kind. Und kusch mir a Rob von dem Stern, die Zeichens von meiner Sinn. Getrogen dein Gärtlich Licht. Sie bin ich denn schuldig, was drammt sich auf die Tod.